Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 18 novembre 2013 avec Jean-Pierre Michel dans les studios et Robert en duplex. Toujours pareil, le temps de mettre en place notre technique, puisqu'il y a un certain nombre de petites choses à caler pour pouvoir démarrer et pouvoir vous assurer de la rediffusion demain et sur Internet. Et nous voilà prêts à attaquer la formation internationale. On ouvrira peut-être ce journal sur les résultats des élections au Chili, enfin provisoires, puisque c'était le premier tour, qui remettent la gauche en place avec Bachelet. Ceci dit, elle n'a eu que 40%, elle espérait 50%, mais il y avait 9 candidats. Donc du coup, il faudra attendre le 15 décembre pour que les choses soient vraiment officialisées et qu'elle rentre dans ses prérogatives après donc cette déception pendant 4 années d'un pouvoir en alternance. On est passé de 7 à 13 millions de votants, mais parce que par suite d'un changement de règles électorales, c'est-à-dire qu'on fait des inscriptions automatiques, néanmoins ça n'a pas incité tout le monde à se déplacer puisqu'il y a eu 50% de participation. Voilà, peut-être Robert, tu avais un commentaire à faire aussi. Allô? Il ne m'entend pas. Ah oui, d'accord.
Et donc, il n'y a pas une signification. On peut être étonné que les gens ne soient pas précipités profitant de cette liberté nouvelle qui leur a été donnée, éventuellement, de ne pas y aller. Et donc, d'y aller en se disant, mais je peux très bien ne pas y aller. Bon, enfin, ça n'a pas été le cas. Bon, tu as donné effectivement la situation nouvelle qui était attendue. Elle ne passe pas au premier tour comme elle l'aurait souhaité. Elle n'en est pas loin, je crois que c'est autour de 47%. Autour de 47. La candidate de droite, elle fait 25, donc effectivement, il n'y a pas photo, comme on dit habituellement. Par contre, il y a le replacement de toutes les petites candidatures. Certaines, en fait, c'était des soutiens masqués, soit à Bachelet, soit à la droite. Peut-être qu'il en ira plus vers la droite que vers Bachelet. Mais ça ne mettra pas en cause une élection facile qui sera la sienne. Ce qu'on attend, et ce soir on n'en sait pas grand-chose, c'est comment va être composé le Parlement, puisque l'Assemblée est totalement renouvelée et le Sénat par moitié. Alors il y avait beaucoup de nouvelles candidatures, et notamment des candidatures qui étaient nées du mouvement étudiant et lycéen de ces dernières années, un mouvement très fort, et on a vu massivement des candidatures d'étudiants, de lycéens, de gens plus jeunes, ce qui est effectivement un phénomène qu'on a peu vu, et que par exemple on n'avait pas vu. Si on fait un peu d'histoire, qu'on n'a pas vu en France en 1968, on aurait pu voir aux élections de 68 beaucoup de jeunes devenir candidats, mais ça n'a pas été le cas, y compris les leaders, pour ne citer que ces deux-là, que ce soit Sauvageau ou que ce soit le notre cher ami franco-allemand. Sinon, effectivement, ce qui est important de signaler, c'est que quand on regarde la configuration, ça va être impressionnant parce qu'à nouveau, les trois grands pays de amérindiens vont basculer à gauche. Alors, c'est une gauche alors qui est, bon, on va dire, pour certains dire, est plus ou moins molle, plus ou moins dure. Enfin, pour ces trois pays, c'est plutôt une gauche qui, d'ailleurs, souvent compose au centre. D'ailleurs, elle était obligée parce que les parlements, que ce soit Kirchner en Argentine ou maintenant Rousseff au Brésil, elle n'avait pas des majorités absolues dans les parlements, donc fallait que ces deux femmes se composent. Bon, voilà, on aura trois femmes qui vont contrôler les trois quarts du continent latino-américain. C'est impressionnant. Ça, c'est pour vraiment l'image folklore. Mais on va avoir effectivement un renforcement de, pas l'opposition, mais quand même du rapport de force avec les États-Unis. Bon, les États-Unis, pour toute cette Amérique plutôt de gauche, c'est mieux que ce soit Obama qu'un Bush qui soit au pouvoir, parce qu'on pense que Bush multiplierait les provocations qui manquent de subtilité, voire qui peuvent conduire jusqu'à des guerres, et que visiblement la CIA et puis les appareils répressifs d'Obama sont beaucoup plus subtils dans les manœuvres dans ce continent-là. Donc, faudra que Obama tienne compte de ça d'une autre manière, qui se réintéresse peut-être un peu plus à ce continent-là et qu'il ne faut pas toujours à s'occuper de ce qui se passe en Europe qui pourrait effectivement très bien être géré par les Européens eux-mêmes. Voilà, bon, il y a d'autres considérations, il y en a pas mal qu'on peut faire. Alors il y a effectivement cette... on va depuis les États, on va dire, qui prônent une radicalité d'un socialisme 21e siècle, Venezuela, Équateur, un peu moins le Nicaragua, puis encore un peu moins deux ou trois autres pays, qui vont donc jusque vers le sud avec un positionnement beaucoup moins fort vers des processus révolutionnaires. Mais dans ces trois pays-là, il y a, et notamment au plan financier, il y a la volonté de rompre avec les mécanismes, enfin, ils le pratiquent en plus, de rompre avec les mécanismes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et c'est bien là l'essentiel.
Ouais. On ajoutera pour dire un mot de ça aussi, parce que c'est une pratique qu'on n'a pas du tout chez nous. Là-bas, les gens sur les bulletins peuvent très bien ajouter des mentions sans que ça annule les bulletins. Et il y a un mouvement qui s'était constitué autour d'une revendication pour une nouvelle constitution, le changement, sachant que la constitution actuelle toujours en place, c'est celle que Pinochet avait faite, donc il y a forcément des améliorations à apporter en matière démocratique. Et il y a quand même 8% des bulletins qui étaient paraffés d'un AC, ça voulait dire Assemblée constituante, pour un nouveau référendum qui est un des engagements, on va dire, que Bachelet a pris pour sa réélection. Voilà, c'est assez singulier qu'on puisse comme ça paraffer, enfin écrire des choses sur des bulletins sans que ça les annule, alors que chez nous ce serait autant de bulletins nuls. Peut-être Michel a quelque chose à ajouter sur le Chili ?
Bachelet, de toute évidence, va être réélu au mois de décembre. Mais que dire ? Bon, elle avait déjà eu un premier mandat, 2006-2010. Elle a gouverné vraiment, on peut dire, on va pas dire centre-gauche, mais pas loin quand même. Hein. Donc, les Chiliens ont désapprouvé le gouvernement de droite sortant. Ils ont remis en selle Bachelet. Et ce, sur un programme quand même de libéralisation qui a eu cours quoi, ces dernières années au Chili, notamment dans le domaine de l'éducation. Et c'était une demande forte, notamment des lycéens et des étudiants qui étaient sortis les semaines précédentes avant les élections dans les rues. C'était l'éducation pour tous et sous-entendu l'éducation gratuite hein, et laïque pour tous.
Voilà, autre sujet, on peut parler de la tournée qui est très intéressante du point de vue géopolitique de Hollande en Israël et en Palestine. Hollande, pépère caméléon qui fait tout pour être agréable à ses hôtes, qu'ils soient en Israël en leur manifestant beaucoup de sympathie. Et là, il en reçoit en échange du fait de sa position un peu plus radicale que celle des Américains face au nucléaire iranien. Et puis, à peine arrivé en Palestine, le voilà qui, là, par contre, se déchaîne un peu contre les colonies israéliennes en exigeant l'arrêt des colonies. Peut-être un sujet qu'il avait oublié d'aborder avec Netanyahou. Enfin bref, il y a de la géopolitique. Ils cherchent aussi se refaire là, une santé à l'international qu'il n'a plus au national. Ça lui fait peut-être bien d'aller prendre l'air parce qu'il est tellement sous pression en France avec toutes les manifestations et les oppositions qui se mettent en place face à sa fiscalité. Voilà, vive l'amitié France et la Palestine, a-t-il dit en Palestine, et vive l'amitié franco-israélienne, a-t-il dit en Israël. Alors, est-ce qu'il y comprend rien ou est-ce qu'il comprend trop bien ?
Il ne comprend que trop bien c'est ce jeu de duplicité, de renvoyer les uns et les autres et balle au centre. C'est finalement avaliser la politique de colonisation et la politique du colonisateur et surtout du colonisé. Il est attendu à la Knesset, à Jérusalem, au jour d'aujourd'hui. Officiellement, la capitale reconnue par la communauté internationale pour Israël, c'est Tel Aviv, c'est pas Jérusalem. Il prend acte, il dit Jérusalem, capitale des deux États à venir, chaque peuple ayant droit à son État, Israël, la Palestine, toujours est-il, c'est à Ramallah, il n'exige pas du tout de la force occupante israélienne. Qu'elle autorise donc le gouvernement palestinien à siéger à Jérusalem comme elle le voudrait. N'oublions pas que c'est par défaut qu'aujourd'hui que le gouvernement palestinien siège à Ramallah. C'est pas par principe. Ces termes de soi-disant effectivement neutres, d'amitié commune, où il a fait venir autour de lui des gens proches des idées palestiniennes, proches effectivement d'Israël, ne doivent tromper personne. La politique de François Mitterrand qui engage la France, c'est celle effectivement de la continuité au sein aussi du parti socialiste concernant le Moyen-Orient, c'est un soutien indéfectible donc à l'État d'Israël. D'ailleurs, il l'a dit, je resterai toujours un ami d'Israël, soutien indéfectible. Indéfectible de la France, mais adopter cette position-là, c'est se couper les moyens d'action vis-à-vis des uns et des autres sur ce dossier-là. C'est d'office, et on l'a vu depuis les accords d'Oslo, le nombre de colons a triplé en Cisjordanie. D'aucune manière, ça a été un sujet qui a été évoqué par Hollande. D'aucune manière, il a menacé les Israéliens sur leur politique de colonisation. Donc c'est plutôt l'acceptation du fait accompli de la part de l'État d'Israël concernant la Cisjordanie. Et on sait très bien qu'à ce rythme-là, les pourparlers peuvent encore durer 10 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui va changer globalement ? Une seule chose, c'est la multiplication des colonies et à terme l'impossibilité de vraiment mettre en place deux États souverains, l'un palestinien et l'autre israélien, puisque l'un aura quasiment phagocyté le territoire de l'autre. Alors quant à effectivement la position d'échange aussi de territoire, quel territoire ? Échanger des territoires sur lesquels, au fur et à mesure des années, les colons israéliens grignotent la Cisjordanie, contre quoi en face ? Contre quoi ? Contre quoi ? Qu'on me le dise concrètement, Israël, qui est prêt, Israël, aujourd'hui, à fournir en vue d'un échange qui réglerait ce problème israélo-palestinien.
Ouais, sans compter qu'il y a 5 millions de réfugiés qui frappent à la porte, et puis que aussi la France se donne une bonne conscience qui. Je crois qu'il est arrivé avec un chèque de 3 millions de 5 millions d'euros même pour soutenir le gouvernement palestinien. Alors on est comme ça dans l'entre-deux à donner quelques gages aux Palestiniens avec un soutien financier dont ils ont forcément besoin puisque les autres les empêchent de vivre et de se développer, et puis un soutien indéfectible comme on le disait à l'État israélien.
Oui, d'un côté, on fait venir les pontes du CAC 40 qui s'apprêtent à signer des marchés dans cet État qui a une croissance assez soutenue déjà depuis quelques années, qui est l'État d'Israël. Donc voilà, il y a des marchés à prendre. Et l'autre côté, pour éviter toute nouvelle intifada, donc on lâche quelques millions qui ne coûtent pas grand-chose en soi, et qui finalement ne donnent aucune perspective donc, d'avenir à la création donc, d'un État palestinien souverain digne de ce nom.
Robert, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, deux petites considérations. Une d'abord sur cette image qu'on a pu voir présentant l'arrivée de Hollande et de sa compagne à Jérusalem. Et la compagne est revêtue d'un trench coat qui est constitué de bandes horizontales blanches et bleues, du bleu du drapeau palestinien, du drapeau israélien, et on est surpris parce qu'effectivement, ou bien c'est on va dire que c'est un hasard pour le moins très malencontreux, ou bien c'est voulu, mais c'est assez surprenant de voir cette forme de participation à une certaine propagande. Et puis le deuxième élément que je voulais apporter, c'est je conseille aux gens, parce que je l'ai vu hier soir, dimanche, un film qui s'appelle Omar, c'est son titre. Omar, c'est un film palestinien, un jeune homme en Cisjordanie occupé. Il est boulanger, il n'a pas forcément vocation à devenir un grand résistant, mais finalement, il se trouve à juste titre, on va dire, pris dans un groupe, et il le devient effectivement résistant, et il participe et à un attentat contre un soldat israélien, et naturellement, après cet attentat, évidemment, c'est la répression terrible de l'armée et de la police d'occupation, et tout ça, évidemment, ça finira forcément mal pour le groupe de résistants qui n'avaient au départ pas forcément vocation à devenir aussi fortement, mais qui étaient forcément, dans cette conjoncture-là, amenés à le devenir. Omar, c'est un film qui s'appelle Omar, comme le prénom.
Voilà
c'est ce que je voulais ajouter.
Très bien. Autre sujet, Michel, tu avais envie d'aborder ?
Juste en marge, effectivement, de cette visite officielle, donc parler de Genève, la conférence donc entre les 5 pays du Conseil de sécurité plus l'Allemagne avec l'Iran, donc en vue de là aussi d'un règlement la politique.
Question nucléaire.
Oui, politique d'enrichissement, donc d'enrichissement nucléaire de l'Iran. La position adoptée par notre président, donc hier, auprès des Israéliens, donc elle a été totalement dans leur sens, hein, puisqu'il dénie tout droit, donc. Aux Iraniens de posséder l'arme nucléaire, mais aussi globalement de contrôler donc le nucléaire, hein, le nucléaire civil. De fait, les exigences sont telles qu'elles sont inacceptables pour la partie iranienne. Et là aussi, c'est un loupé, mais au niveau diplomatique, mais j'ai jamais vu ça dans la diplomatie française. On a en face de nous, on n'a pas Ahmadinejad, on a Rouhani qui est plutôt disposé au dialogue, hein, qui est prêt à un semblant de consensus, mais encore faut-il de notre part aussi faire quelques efforts. Or, il adopte une position sur ce dossier qui est celle des néoconservateurs américains, donc qui dépasse même l'administration américaine actuelle. C'est une surprise, mais qui colle exactement donc à la politique étrangère de l'État d'Israël. Ça aussi, c'est assez extraordinaire, hein, que notre ministre des Affaires étrangères, Fabius, ou notre président, soit plus conservateur donc que le gouvernement américain. C'est quelque chose qui est totalement affolant, quoi. C'est du jamais vu. Et juste dire effectivement que on s'enclenche là avec ce type d'opposition. Deux jours avant la conférence de Genève, vers un échec cuisant. Donc qu'est-ce qui nous reste si on trouve sur l'échec ? Le maintien des sanctions sur l'Iran, qui va continuer son programme nucléaire, qu'est-ce qui nous reste ? Donc la guerre à plus ou moins long terme, c'est ça ? C'est affaiblir dans un premier temps en alourdissant les sanctions et à la fin finir de frapper, ce qu'on a fait aussi au préalable avec l'Irak. Apparemment, là aussi, on est en train d'adopter donc une position diplomatique qui colle aux intérêts de l'État Israël, qui est, on ne peut plus à droite, pour ne pas parler fascisant, et qui omet effectivement de prendre en compte l'Iran, qui est ce pays de quasiment 80 millions d'habitants, qui est amené donc à jouer un rôle dans la région, qui a une croissance qui devrait être soutenue dans les années à venir et dans lesquelles effectivement nos intérêts, nos industries donc pourraient tirer leur épingle du jeu.
Oui, mais le problème, c'est que aussi cette position qu'adopte la France, elle est partagée par une partie des pays arabes. L'Iran étant chiite avec la Syrie, il y a beaucoup de monde dans les pays arabes qui se félicitent de cette montée en face l'Iran des Occidentaux qui font aussi leur jeu. Du
fait. Alors, quand on parle de pays arabes, oui, lesquels ? L'Arabie Saoudite, oui. Qui dénie tout droit donc à l'Iran, et les Émirats du Golfe, des très très grandes démocraties. Hein. Ce n'était pas le cas effectivement de la Syrie,
ce n'est pas le cas
de l'Irak, ce n'était pas le cas non plus des frères musulmans lorsqu'ils étaient au pouvoir en Égypte. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, on veut nous accréditer le fait que l'Iran avec l'arme nucléaire, c'est un danger pour Israël, pour toute la région. Pas plus que la France ou les États-Unis aujourd'hui. N'oublions pas que l'aventure, si j'ose dire, de la conquête de l'arme nucléaire vise avant tout à se prémunir contre toute attaque. C'est une arme dissuasive, une arme qu'on a, mais qu'on s'engage donc à ne pas utiliser, sauf si on est attaqué. Donc voilà. Et en faisant ceci, on comprend bien effectivement qu'on ne veut pas que l'Iran acquiert cette souveraineté. Ni l'Arabie Saoudite, ni les Émirats sunnites du Golfe, encore moins Israël, et pas les Occidentaux. Mais de quel droit ? Et après tout, il faut comprendre un peu la psychologie des Iraniens, quoi, qui ont été, jusque dans les années 50, sous colonie britannique. Hein, et ils savent ce que c'est être soumis, ne pas avoir sa souveraineté. Lorsque le Shah est arrivé au pouvoir, il a été sous contrôle de la CIA. Donc il a fallu attendre cette fameuse révolution islamique de l'Ayatollah Khomeini pour qu'ils obtiennent leur souveraineté. Mais bon, à quel prix ? Voilà où on en est. Et n'oubliez pas non plus que chez les Iraniens, que ça soit chez les islamistes ou que ça soit chez les opposants au régime qui sont éparpillés aux quatre coins du monde, il y a un consensus concernant effectivement l'indépendance énergétique nucléaire. Ils sont tous d'accord là-dessus. Là aussi, on est vraiment très hypocrite hein, sur ce dossier-là. C'est pas l'arme des ayatollahs, l'arme nucléaire. C'est la volonté effectivement de cet État de se doter officiellement donc de son indépendance énergétique. Mais bon, on sait bien qu'elle a d'autres moyens de l'acquérir. Mais bien entendu, c'est avant tout d'acquérir la bombe nucléaire, chose qu'on laisse finalement à Israël, hein, qui n'a pas signé le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire, qui n'a pas ratifié la convention sur les armes chimiques. Aujourd'hui, la première puissance nucléaire et chimique dans la région, c'est Israël. Faut pas l'oublier.
Robert, quelque chose de plus sur ce sujet ou sur un autre ?
Non, peut-être dire un mot de la dégradation qui se poursuit en ce qui concerne la Libye dans le plus grand silence de ceux qui sont responsables de cet état des choses, et notamment la France, grande participante à l'élimination de Kadhafi, et une France qui, là, Hollande, qui est très silencieuse, à peine si les Américains, Kerry, a eu quelques mots pour dire il faut qu'ils se calment, les Libyens, il faut pas qu'ils s'entretuent trop fort, quoi. C'est une situation effectivement que la France n'honore pas en refusant de reconnaître sa responsabilité, parce qu'il faut se souvenir que si c'est Sarkozy qui a fait le boulot, Hollande n'était pas loin derrière et était appuyé. Enfin, Hollande, Fabius étaient d'accord avec ça.
Alors, la situation réelle sur le terrain, donc, c'est qu'il y a eu ces derniers jours des affrontements qui ont quand même fait plus d'une trentaine de morts et plus de 200 blessés. entre, on va dire, des milices, puisqu'il semblerait que rien qu'à Tripoli, il reste 300 milices en place après le bouleversement de pouvoir, et puis des populations ou des populations organisées par ce qui sert de gouvernement, mais qui est loin de maîtriser l'ensemble du pays. Et donc ces affrontements-là de cette semaine venant après deux jeunes qui ont été tués par la milice qui a été attaquée le 7 novembre. Quoi. Donc une atmosphère de guerre civile entre milice et semblant de pouvoir légal. Quoi.
Oui, la situation en Libye aujourd'hui, quasiment combien, 2 ans après sa libération. La situation, c'est déjà à Benghazi, tous les consulats ont fermé. Hein. Les États-Unis, ça leur a coûté la vie de leur ambassadeur, de leur consul. Les Français, n'en parlons pas, ils ont tous, les uns après les autres, fermé. Mais pourquoi, effectivement, ils étaient ouverts dans la région? Parce qu'effectivement, le gros des ressources pétrolières et gazières se trouvait donc en Cyrénaïque, donc la province sud de Benghazi, devant le chaos généralisé entre, d'un côté, les forces un peu indépendantistes, autonomistes, les autres, les djihadistes, qui se font la guerre pour le contrôle des sources énergétiques en Cyrénaïque. Donc, ils sont tous repliés vers Tripoli, centre du pouvoir. Et notamment, donc, ils sont tous dans une sorte de nouvelle zone verte, si on peut parler, aux alentours de l'aéroport de Tripoli. Et c'est la raison aussi pour laquelle, sachant que tout le monde sait où est le pouvoir de décision, nos consulats sont tous au même endroit, et que les différentes milices des quatre coins du pays, hein, que ce soit du Misrata, ceux qui en l'occurrence ce week-end sont responsables donc de ces morts, ou que ce soit ceux du Faisan ou de Zitane, toutes ces milices sont à Tripoli parce que c'est là où est le pouvoir, et elles ne veulent pas effectivement relâcher prise, elles veulent elles aussi, surtout pour celles qui estiment avoir participé et grandement donc en renversement du régime Kadhafi, et c'est le cas des brigades donc de Misrata, et par contre qui dans la région de Misrata, qui est la troisième ville du pays, n'ont pas grande source énergétique à négocier, donc elles négocient au niveau politique, donc elles veulent être reconnues en tant que telles, et elles veulent que le gouvernement donc de Ali Zeitane les reconnaisse, sous-entendu, hein, sous somme trébuchante, donc, et intégrée à l'armée officielle. Aujourd'hui, on est en face d'un pouvoir tellement soft que on essaye de composer avec ces différentes milices, et petit à petit, on essaye d'en écarter les unes des autres, de jouer les unes contre les autres, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le Tripoli, aujourd'hui, le gouvernement central arrive à peine à contrôler effectivement le périmètre de son gouvernement. On l'a vu avec l'enlèvement éclair le mois dernier du Premier ministre Zeitane. Donc on va vers une situation donc, de chaos un peu généralisé. Les Occidentaux, qui sont grandement responsables, hein, on vient de le dire, et notamment notre pays, hein, mais aussi les États-Unis, de ce chaos, donc ne savent pas non plus sur quel pied danser. Faut-il forcer le Premier ministre à demander l'intervention d'une force étrangère, sous-entendu les forces occidentales, hein, mais on sait bien que ça ne va pas régler le problème, ça va peut-être... faut-il monnayer avec les uns, avec les autres, l'intégration, donc... À cette armée unifiée de ces différentes brigades. Pour l'instant, voilà, on en est sur un démantèlement du pays, du pouvoir de décision, que vers une intégration et vraiment une souveraineté qui se ferait depuis Tripoli.
Voilà, écoutez, je vous propose de faire une pause musicale parce qu'on a pas mal avancé dans le temps, et puis on a aussi une rubrique nationale chargée. On va la faire sur fond de Salon des éditions libertaires, c'est samedi et dimanche, on en reparlera à la fin de l'émission. Le thème c'est Anarchie ma blanche, la chanson est de Christian Paco.
Ils ont la plume ancrée dans l'histoire, et des mains sur le front des enfants, des chansons de Ferré pour y croire, et Fanon pour arrêter le temps. Oh papa, le soleil est à noir, qu'on le boive tant qu'il est encore temps. Dans le ciel il pleut des drapeaux noirs, c'est pour ça qu'on voit chanter le vent. Et du lever des couleurs au coucher de la vie, écoutez les tailleurs de la nuit. Blanche anarchie, ma blanche des communs, dimanche toute la semaine on t'attend. Anarchie, ma belle des communs, Noël toute l'année on t'attend. Anarchie, ma vieille, t'es comme le soleil, toute la vie on t'attend. Anarchie, ma noire des plus qu'un espoir, mais t'es quand même bien noir, tout noir comme des petits flocons de suie, que si tu les essuies c'est quand même tout gris. Noir, tout noir, le petit flot qu'on suit sur Radio Liberty, c'est le flot de la vie. Non monsieur, les petites gueules de France en n'ont rien à foutre d'être français, parce que dans la cour de leur enfance on allait de l'Afrique au Tibet. Oh papa, regarde-là ta France, elles font dans la bouche et dans la main, comme le beau bateau de ton enfance a coulé sous l'or et le satin. Et tu le fais des couleurs au coucher de la vie, écoutez les tailleurs de la nuit. Blanche anarchie, ma blanche des communs, dimanche toute la semaine.
Donc Christian Pacou interprétait sa composition Anarchie, ma blanche. Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du 18 novembre 2013, avec Michel Jean-Pierre dans les studios Robert en duplex, et nous abordons la rubrique nationale. Là, on a le choix entre beaucoup de sujets, je pense qu'on ne traitera pas tout ce soir, mais comme ça on en laissera pour les Canu Info suivants. Allez Robert, tu ouvres avec quoi ?
Mais c'est simplement en une phrase dire qu'il y a eu cette fin de semaine, déjà en France et en Europe et sur la planète, des manifestations pour le soutien à apporter aux 30 emprisonnés Greenpeace qui sont maintenant à Saint-Pétersbourg et pour lesquels des comparutions devant des juges ont démarré avec, apprend-on, des personnes qui ont été libérées sous caution et puis d'autres peut-être qui le seront dans les prochains jours, enfin on ne sait pas trop. Mais ce qui serait important, c'est que c'était ça, il semble que ça se dit à l'occasion de la conférence sur le changement climatique. Cette conférence qui a démarré à Varsovie et qui va se tenir jusqu'au 22, donc pendant les 3-4 jours qui viennent, eh bien cette conférence serve aussi de caisse de résonance pour demander la libération des 30 de Greenpeace.
Voilà pour ce sujet. De quoi va-t-on parler ? Ben
le social peut-être.
On peut, oui,
la Bretagne.
Le social, la Bretagne. Ben la Bretagne, il se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'on voit de plus en plus clair dans le blanc des bonnets rouges qui réapparaissent périodiquement, mais qui semblent bien instrumentalisés par les grands groupes financiers. On a même su depuis que tous les supermarchés, Leclerc, Super U et autres, le samedi de la manif avaient fermé à 3 heures pour permettre à tout le monde d'y aller. C'est dire si ces manifs étaient télécommandés, ce qui ne veut pas dire que face à la pression fiscale, et là le pouvoir se trouve confronté, il s'est mis dans une situation tout seul où il est piégé, parce qu'à force de rajouter des impôts de tous les côtés, aussi bien les plus riches que les plus pauvres en faisant les frais, la contestation monte et pourrait éventuellement, comme disent les journalistes avec le joli mot de coaguler, et nous faire un mouvement qui bloque toute la France. Pour le moment, ça bloque par petits morceaux. Samedi, c'était les camions. Sur la frontière, on a vu aussi les frontaliers se remobiliser une nouvelle fois. Il y a toute une série de catégories professionnelles qui ont, quand c'est les chevaux, ça ne représente pas grand monde, la TVA passant de 17 à 20% pour eux. Mais ces augmentations de TVA, même quand elles ne sont pas toujours très fortes, viennent comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein, tous les travaux qui, sur l'ancien qui était à 7% vont passer à 10%, sauf ce qui concerne l'amélioration thermique, c'est-à-dire 30% de travaux en question. Et puis, ben voilà, on est dans un climat extrêmement tendu au niveau social. Je ne vois pas très bien comment le gouvernement va devoir y faire face. Évidemment, s'il annule la hausse de la TVA, il fera taire un certain nombre de revendications qui montent. Mais en même temps, Cazeneuve nous a fait savoir qu'il lui manquait 5,5 milliards d'euros. L'impôt sur les sociétés, l'économie ne marchant pas fort, ayant chuté, les impôts sur le revenu, malgré les augmentations auxquelles on a procédé, n'apportent pas tout ce qu'on espérait. Et du coup, eh bien, le fameux équilibre auquel le budget voulait arriver en 2013 risque de ne pas être au rendez-vous.
Toujours à propos de la Bretagne, une bonne nouvelle quand même, c'est dans une déclaration commune, la CGT, la CFDT, hein, donc c'est important de dire CGT, CFDT, CFTC, CGC, Solidaires, UNSA et FSU, sont convenus à organiser des manifestations le 23 novembre dans tous les départements de Bretagne, pour effectivement d'abord appeler à de véritables propositions pour ce que le gouvernement a appelé le pacte d'avenir pour la Bretagne, avec ses 15 millions, comme ça, on avance des chiffres, mais en fait, il n'y a pas de structuration d'un plan, d'un véritable plan. Et donc, ces syndicats, notamment CGT et CFDT, qui se retrouvent, alors, il n'y a pas Force ouvrière qui, pour l'instant, était à Quimper et n'a pas digéré des précédentes divisions d'il y a 15 jours. Force ouvrière qui dit qu'il ne faut pas faire forcément des manifestations que qu'en Bretagne, il faut en faire partout, et que c'est une raison qui ferait qu'il faut n'y participe pas. Donc, le 23, une grande mobilisation, on va voir ce que ça donne, et surtout si ça clarifie les positions entre ceux qui vivent du travail et puis ceux qui vivent du capital, parce qu'effectivement, la confusion était telle à Quimper qu'il était peut-être temps d'apporter un peu de clarification là-dessus.
Quimper et à propos Carex, hein.
Oui, vas-y. Oui.
À Quimper et à Carex.
Oui, Quimper, ben oui, c'était la confusion, puisque tout le monde était supposé y être, les exploités comme les exploiteurs, alors qu'à Carex, il y avait quand même, le choix était fait des exploités. Oui, c'était quand même un petit peu plus clair à Carex, mais il y avait hélas beaucoup moins de monde. Tu parlais
de... T'inverses les deux, là, c'était Quimper, Enfin bon, on ne va pas rajouter là-dessus, mais c'était à Carex la manif patronale et à Quimper la manif syndicale.
Non, je crois bien me souvenir que c'est le contraire.
On vérifiera nos sources.
Oui.
et la manif du 1er décembre, tu en sais quelque chose du Parti de gauche?
Ben, oui, effectivement, manif du 1er décembre. Alors, tu évoquais toute la question de la fiscalité tout à l'heure. Effectivement, cette manifestation du 1er décembre, le Front de gauche y appelle. Et puis, on sait déjà qu'il y a la CGT aussi. Alors là, c'est une manifestation. Ce sont un appel qui concerne l'ensemble naturellement du territoire. Alors, c'est pour à la fois dénoncer l'imposition fiscale qui progresse un peu dans toutes les catégories, ce que tu as bien rappelé, et puis aussi le projet, c'est plus qu'un projet, c'est une décision gouvernementale d'augmenter la TVA à partir de janvier, et donc c'est pour dire non à cette augmentation de TVA. On a ce soir une information, elle n'est pas étrange, mais elle va sûrement être beaucoup commentée. C'est une déclaration de Louis Gallois. On se souvient que Louis Gallois, c'est l'homme qui avait fait ce fameux rapport sur la productivité, donc qui est une espèce de sage pour parler économie et finances, et qui ce soir a reproché au patron de dire des contre-vérités. Lui, selon lui, Gallois, en fait, la pression fiscale sur les entreprises a baissé en 2014 par rapport à 2013. Alors il dit, il faut pas dire n'importe quoi et surtout ne pas faire n'importe quoi. Alors cette déclaration de Louis Gallois va sans doute demain faire l'objet de beaucoup de commentaires.
Allez, deux petites nouvelles un peu moins grisâtres. L'optimisation fiscale, un léger coin a été inséré par les députés vendredi soir à l'Assemblée nationale, profitant que tous les UMP étaient déjà partis en week-end. On a voté le fait que pour les sociétés d'optimisation fiscale, c'est-à-dire celles qui organisent pour les grands groupes le moyen de payer le moins d'impôts possible, on va les obliger à présenter les projets qu'elles proposent aux entreprises à Bercy, au ministère, avant de les présenter aux clients. Alors le MEDEF hurle à l'insécurité folle qui va être engendrée par ça, et il estime que c'est absolument terrifiant. Voilà une petite mesure de gauche qui va pas loin, mais qui fait quand même plutôt intéressante. Et puis il y a sur l'immigration cette information qu'on a pu récupérer, que finalement en 2013, il y aurait 55% de régularisation de gens en situation irrégulière, sans papier et autres, par rapport à 2012. On en aurait 46 000 en 2013. Il faut savoir aussi que ça ne concerne que quasi essentiellement que les familles, les travailleurs sans papier que leurs employeurs ont bien voulu déclarer et donc réclamer pour eux cette régularisation, quoi. Enfin, c'est toujours une nouvelle intéressante par rapport aux difficultés auxquelles sont confrontées ces populations, même si c'est loin de satisfaire tout le monde. Michel, tu avais peut-être un sujet, tu voulais... Non, pas spécialement. Robert, une autre info.
Les Verts, donc Europe Écologie Les Verts, ont prévu dans le cadre de la préparation de leur congrès du 30 novembre, hein, c'est donc très bientôt, de faire un vote de leurs adhérents sur les différentes motions qui circulent. Ailleurs, on pourrait appeler ça, bon, d'autres noms, bon, c'est des motions, c'est-à-dire des gens qui se rassemblent sur des textes et qui veulent donner une orientation à l'ensemble du parti politique Europe Écologie Les Verts. Et donc, les résultats de cette motion font apparaître comme ils se disent eux-mêmes, le clan au pouvoir, hein, c'est très dur les discussions entre eux, parce qu'ils estiment actuellement c'est un clan qui dirige et qui verrouille la direction des Verts et qui, au niveau, dans ses décisions par rapport à l'institutionnel, c'est-à-dire par exemple le gouvernement et d'autres lieux où siègent des Verts. Donc ce clan était fortement mis en cause, et on l'avait vu aux journées d'été des Verts qui s'étaient réunis cet été à Marseille. Alors, le clan, disons, de ceux qui gouvernent, c'est-à-dire des gens, notamment Duflot et Placé, arrivent en tête avec, je crois, près de 30% des votes. Et puis derrière, arrive alors une conjugaison de gens qui n'avaient pas l'habitude d'être ensemble, c'est-à-dire tu as des gens qu'on situe plutôt un peu plutôt à droite à travers des positions, bon, droite-gauche chez les Verts, c'est difficile à interpréter, mais c'était Yves Cochet qui plutôt représentait une opposition, mais pas, on devait dire, c'était pas une opposition de type, par exemple, idéologique. Et puis Cochet qui fait alliance avec Alain Lipiès, qui lui était plutôt représentant de la gauche des Verts. Et ensemble, ils font à peu près 20%. Et puis derrière, les autres motions, ça s'effrite. Donc en fait, ça va être la bataille ensuite du rassemblement pour savoir si la majorité sortante du flot placé, ceux qui gouvernent le parti, vont rester en place ou s'il va naître une nouvelle majorité qui, au-delà des aspects politiciens, aura des répercussions sur, oui ou non, reste-t-il au gouvernement ?
Voilà, alors quelques brefs pour clôturer ce Canu Info, juste pour les citer. On est dans la 17e semaine pour l'emploi des personnes handicapées, 6% de personnes handicapées employées par, selon la loi, dans les entreprises de plus de 20 salariés. En réalité, il y en a 3% dans le privé et 4% dans le public. Donc toutes les autres entreprises qui n'atteignent pas ces 6% sont hors la loi. Un projet de loi sur le non-cumul des mandats qui revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Ça va faire des étincelles au PS et en particulier à la mairie de Lyon, puisqu'on a un récalcitrant notoire. La commission mixte qui devait négocier les choses pour arriver à un texte qui ménage toutes les positions du Sénat et des députés n'est arrivé à rien, donc ça devrait être le texte initial du gouvernement, le plus dur, le plus raide, qui va passer. Aïe, aïe, aïe. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi, d'important ? Ben oui, Payon attaque sa réforme de l'enseignement. Il n'est pas encore sorti d'une réforme qui lui a mis tout le monde à dos, les enseignants, les parents, les hôteliers, et même aussi les enfants, parfois, et les mères, qu'il en attaque une autre, la réforme du métier d'enseignement. Il s'agit de valoriser leur métier, de modifier des choses à la marge, mais sans un sou de plus pour tout ça. Donc on peut penser que les négociations vont être dures. On y reviendra. Pas d'autres sujets d'information pour terminer ? Pas de brève ? Non ? Alors, je donne quelques infos culturelles. Ben, tout d'abord, ce salon des éditions libertaires, on en a déjà parlé ici, on en reparlera. C'est samedi et dimanche, de 9h à 18h30. Et il y a aussi, en parallèle, un petit peu lié, novembre qui s'installe partout, c'est-à-dire un certain nombre de prestations dans l'esprit du salon des éditions. Par exemple, demain le 19, un open atelier au lavoir public, un passe-flessel. Samedi 16 et dimanche 17, mais ça c'est passé, oui, il faut que j'aille plus loin dans le programme. Le vendredi 22, le débat sur anarchisme social et organisation à la Plume Noire. Et puis le vendredi 22, le spectacle Je vous livre de David Rougerie à la librairie Les Yeux dans les Arbres. Donc le salon, ben, c'est une soixantaine d'éditeurs, c'est beaucoup de choses. Et puis même si vous n'y venez pas et même si vous y venez, ce sera deux directs de Radio Canu le samedi entre 12h et 16h et le dimanche entre 10h et 14h avec des auteurs, des éditeurs, des intervenants. Vous pourrez suivre ça. Radio Canu installe son studio mobile au salon des éditions libertaires. En un mot, il y a le festival à nous de voir cinéma et sciences qui, à Oulin, c'est la 27e édition, se déroule du 21 novembre au 1er décembre. Je vous invite à chercher sur Internet pour avoir le détail parce qu'il y en a des pleines pages, il est impossible de donner tout le programme. Tout comme la deuxième semaine du 34e festival du film court à Villeurbanne, au Zola. Là, au mois de novembre, comme ça, il y a plein de choses. Hein. Ça tire dans tous les sens. C'est jusqu'à Noël, ça va être l'enfer. Vous pouvez sortir tous les soirs. La 4e Biennale Culture d'Enfance, c'est à la médiathèque de l'Iris à Francheville du 19 au 30 novembre. Si vous aimez la chanson française de qualité, là, vous pourrez retrouver où je l'ai mis, Marie-Luc, c'était 21 et 22 novembre à tout bout de champ. Il y a un festival La Belle Soie du 15 novembre au 1er décembre dans lequel s'insère le novembre des Canus avec pas mal de prestations, conférences, débats autour du social, à voir aussi sur le site. C'est également jusqu'au 15 décembre, depuis le 15 novembre, la 25e édition du festival de guitare. Et puis quand je vous aurai dit qu'au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, donc, il y aura Bells Are Ringing, une comédie musicale de Jules Stein, Betty Conman et Adolphe Green dans une mise en scène de Jean Lacornerie, eh bien, je serai à peu près au bout des quelques annonces que je voulais faire. Ce Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h et vous pourrez le réentendre sur Internet. Et nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Ne quittez pas l'antenne. Bonsoir.